Si le soleil ne revenait pas, chapitre 11. Isabelle avait fait venir Jeanne Emery, la couturière. C'était le vendredi. Elles avaient été s'installer dans la chambre d'en haut. Jeanne Emery avait apporté sa machine à coudre, un bon feu brûlé dans le poêle de pierre allumé dès le matin. Isabelle avait posé un carton sur la table qui avait été poussé jusque contre les fenêtres à cause du mauvais jour. Et, l'ayant ouvert, « Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que tu pourras faire ?»« Ma foi !» C'était une pièce d'alpaga bleue, toute pleine, à ses cassures de jolis reflets argent. J'avais demandé à Augustin de me laisser écrire à Antamaten pour lui redemander de l'étoffe. « Eh bien, représente-toi, il n'a pas voulu. C'est la première fois. »«
Qu'est-ce qu'il a ?»
Elle se touche le front, puis pose le doigt sur ses lèvres.
« Il ne faut pas en parler, c'est des bêtises. Qu'est-ce que tu veux? Il ne pense plus qu'à son bois. Il est encore parti pour la forêt ce matin, avec Jean. »«
Eh bien, » dit Jeanne Emery, « on va toujours prendre les mesures. On va voir ce qu'il faut d'étoffe pour la jupe, et on se rendra bien compte ensuite de ce qu'il en restera pour le caraco. »
Oh, disait Isabelle. « C'est drôle, c'est la première fois qu'Augustin me refuse quelque chose. Et pourtant, je sais y faire. Je lui ai dit, « C'est pour le printemps, c'est le printemps qui va venir, Augustin. » Il a haussé les épaules. Il a mauvaise mine. Ils sont comme ça, 5 ou 6 à avoir mauvaise mine dans le village. Tu sais pourquoi? Et moi, j'avais beau lui dire, « Ne trouves-tu pas pourtant que c'est à nous de commencer ?» À nous, les femmes, oui, à nous de nous faire belles, ça encouragera le beau temps. Il m'a dit, tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Et je lui disais, voyons, Augustin, viens ici. Je lui disais, est-ce que c'est encore non? Je lui ai donné, pour commencer, un baiser sur le bout du nez, en attendant qu'il dise oui, et que ce soit le tour du bon. Mais le bon... Il n'est pas venu. Tant pis. Jeanne Emery avait pris son centimètre. Isabelle a ôté son corsage. Il s'était mis alors à faire clair dans la chambre, comme si le soleil était déjà revenu. Il a semblé qu'on avait avancé de 2 bons mois dans la saison.
« Oh !» disait Jeanne Emery, « ce n'est pas seulement la figure, dis. Ce n'est pas seulement la figure que tu adorais. » « Comment fais-tu ? »
« Je fais rien, » disait Isabelle.
87. C'était la hauteur de la jupe. « Tu la veux courte, hein ?»«
Bien sûr, quand c'est court, c'est plus commode pour aller danser au Mayen. »
Jeanne Emery inscrivait les chiffres sur un carnet. 69. C'était le tour de taille.
« Et puis tu la fines, tu sais ?»
Mais Isabelle a soupiré.
« Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ma faute. C'est qu'il est paresseux, » disait-elle, « et pas adroit. Voilà déjà 8 mois, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, 8 mois qu'on est mariés. Moi qui disais à Augustin, il faut que les enfants viennent en été. Il faut qu'ils viennent quand le temps est beau, si on veut qu'ils profitent. Et voilà, il ne viendra pas, l'enfant. S'il vient... avant l'hiver prochain, et il ne viendra peut-être jamais. Jeanne Emery, je te dis, fais la courte. »
Elles étaient bonnes amies, bien que Jeanne fût un peu plus âgée qu'Isabelle, et entre amies, on se dit tout.
« Fais-moi une jupe de fille, et on pourra recommencer à aller danser au Mayen. »
« Avec qui ? » ?»«
Avec qui voudra. Tu viendras, Jeanne ?»«
Attends. » disait Jeanne. « Il faut que je mesure la pièce à présent. »«
Il y en a 3,50 m. »«
Attends, 1, 2, 3... »« Pas tout à fait. Et il va falloir compter 2,50 m pour la jupe. Il ne me restera même pas 1 mètre. »
Elle venait avec sa chevillière en toile cirée. Et Isabelle, « Bigre, ça fait froid !»
la lui a posée sur la peau depuis la nuque jusqu'à l'épaule et depuis l'épaule au poignet.
C'est que tu es ronde. Je n'aurai pas de quoi faire le col.
Eh bien, n'en fais pas.
Qu'est-ce qu'on dira?
Mais j'ai des fichus, personne n'y verra rien.
Oh, disait-elle, j'ai toute espèce de choses. C'est quand on était fiancés, quand il me faisait encore des cadeaux. C'est quand on allait à la foire ensemble.
Elle est descendue l'escalier. Elle remonte avec une petite boîte, toute couverte de coquillages. Les gros collés sur le couvercle, les plus petits sur le côté. Qu'elle portait dans les deux mains, avec un fermoir doré et une serrure.
Et ça aussi, ça vient du temps où on était fiancés.
Il y avait dans la boîte, pliées en quatre, des mouchoirs de soie, une broche en or, des boucles d'oreilles, un collier de corail, des épingles à cheveux, des peignes en cuivre.
Tu vois, il y a de quoi faire, parce que c'était le beau temps.
Mais il reviendra, le beau temps. On le fera bien revenir, s'il ne veut pas revenir tout seul.
Écoute, Jeanne coupe toujours la jupe. Pour le reste, on s'arrangera.
Quand est-ce que je pourrai essayer?
Dimanche après-midi, veux-tu?
Chez toi?
Chez moi, si tu veux.
J'aime mieux, disait Isabelle. J'aime autant qu'il ne sache rien.
Elle a essayé ses fichus devant la glace. Elle faisait soleil dans la glace. Elle faisait dans la glace une belle couleur qui était renvoyée sur elle et autour d'elle. C'était celle de l'abricot, c'était celle du muscat tout à la fin de la saison. Elle mettait autour de son cou ces carrés de soie qu'elle pliait en diagonale. Ils avaient des franges, elles étaient frisées, et entre les franges on voyait sa peau. Et Jeanne Emery disait
« Comment fais-tu avec tes cheveux pour qu'ils brillent tellement ?»«
Je les lave avec de la soude. »«
Et ensuite, comment fais-tu ?»«
Je les sèche devant le feu. »«
Moi, je plante un clou. C'est le dernier. »«
Et puis, » pensait Brigitte, « je ne bougerai plus. »
Elle avait encore été changer l'huile de sa lampe. Elle en avait mouché la mèche, elle était revenue s'asseoir. Et elle était là qui se disait
« Je serai prête quand le moment sera venu. Mais comment est-ce que ce sera ?»
Il continuait à faire sombre sur le village. Nulle part, ni en dehors de la maison, ni en dedans, il n'y avait le moindre bruit. Elle avait joint ses mains dans le creux de sa jupe, elle penchait la tête, faisant silence en elle-même. Là où il y a le 13, un feu sur la montagne, il n'y aura plus rien du tout. Dans 3 jours, je ne bouge pas. Il faisait vert là-haut, il faisait jaune, il faisait rose dans le temps. Et c'était tout à coup comme quand on jette une brassée de bois dans le feu. Eh bien, il fera gris, et puis le gris deviendra plus sombre, et toujours un peu plus sombre. Je ne bouge pas, j'apprends. J'aurai allumé mon feu. J'ai une bouteille pleine d'huile. Et voilà, je me tiendrai bien tranquille jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Mais il ne fera pas tout à fait nuit pour moi, ni tout de suite, parce que j'aurai ma lampe allumée, et elle durera bien autant que moi. Anzévui a dit qu'il fera froid, et toujours plus froid. Mais j'aurai mon feu. Il durera bien aussi longtemps que j'aurai la force de tendre le bras. Aussi longtemps que mon cœur battra. Aussi longtemps que mon vieux sang aura gardé assez de chaleur sous ma vieille peau.
Ensuite, que votre volonté soit faite, à vous qui décidez de tout. Parce que, vous voyez, je ne me défends pas, je ne proteste pas, je ne me débats pas, je ne discute pas. Et la flamme de la lampe sera là pour le dire quand vous viendrez, entrant doucement dans les maisons l'une après l'autre, et puis ce sera la mienne.
Elle avait fermé les yeux. Elle les rouvre. C'était l'heure de descendre à la messe. Elle s'est enveloppée dans son châle. Elle s'est nouée autour de la tête un fichu de laine noire. Elle a été prendre son livre de messe et en même temps, ouvrant un tiroir, 4 petits objets durs et ronds, empaquetés chacun dans un morceau de journal et qu'elle a mis dans sa poche. Elle ne marchait pas vite. C'est pourquoi elle est partie un peu d'avance. Et ainsi, elle s'est trouvée être seule sur le chemin.
Il était ouvert cette fois, et bien battu, parce qu'il n'avait pas neigé depuis longtemps. Et même quand la neige ne fond pas, à mesure qu'on avance dans la saison, elle se tasse, et toujours davantage, diminuant sans cesse d'épaisseur. De sorte qu'on circulait sans peine, et à cause de la salissure que les pieds à la longue apportent où ils frottent, il n'y avait même plus besoin de mettre des pions de bas sous ses souliers, comme font les vieilles femmes pour s'empêcher de glisser. Ainsi la messe avait eu lieu, ce dimanche-là, comme tous les autres dimanches. Comme tous les autres dimanches, ceux de Saint-Martin d'en haut y avaient assisté. Il ne s'est rien passé du tout. Même les hommes de ce Saint-Martin-là étaient restés un moment à causer devant l'église. Et il n'y a eu que Brigitte, parce qu'elle avait toujours les quatre petits paquets dans sa poche, qui s'est hâtée à travers le village jusqu'à une maison où habitait une sœur qu'elle avait. « Eh !» disait sa sœur, « qu'est-ce qui t'amène ?»«
Je suis venue vous dire bonjour. »
« Il y a bien longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Reste à dîner avec nous. »«
Je ne peux pas. »«
Pourquoi est-ce que tu ne peux pas ?»«
J'ai un ménage à faire. »«
Bah !» dit sa sœur. « Une vieille fille comme toi. »«
C'est pas le mien, c'est celui d'Anzévuy. »«
Le vieux aux herbes ?»«
Oui. »«
Comment va-t-il ?»«
Il ne va pas bien. »«
Mais, » dit-elle, « où sont les enfants ?»«
Ils ne sont pas rentrés. »
« Ah !» dit Brigitte. « Que si, en voilà toujours deux !»
C'étaient deux grandes filles qui étaient entrées à ce moment. Brigitte a pris deux des petits paquets dans sa poche.
« Je vous avais apporté, » dit-elle, « un petit souvenir. Il y en a un pour chacun. »
Tout le monde était bien étonné, parce que Brigitte était pauvre. Des souvenirs ? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ?
« Va chercher tes frères, ils doivent être au café. Dis-leur que leur tante Brigitte est là. »
C'est ce que la mère avait dit à la plus grande de ses deux filles, qui est sortie et est revenue un instant après avec deux garçons d'une vingtaine d'années. Et Brigitte leur avait tendu à chacun son petit paquet. Ils disaient « On peut voir ?» C'était une pièce de 5 francs. Ils disaient « Oh, merci bien !» Elle disait « C'est un souvenir. » Mais eux riaient. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Il y a justement réunion de la société de tir cet après-midi, et on ne voulait pas y aller.
« Ils ont fait leur service militaire, tous les deux, » disait leur mère. « Ils sont tous les deux fusiliers. »
On ne voulait pas y aller parce qu'il faut boire et que ça coûte. Mais on va avoir de quoi faire. Merci bien. »
Chapitre 12. Il faut dire que la saison a été, jusqu'à la fin, de telle sorte qu'elle semblait donner raison à ceux qui avaient cru en Zévuy. Ils disaient « C'est que le soleil est malade. Il n'a plus assez de vertu pour dissiper le brouillard. » Ils disaient « Il baisse tous les jours un peu plus. Il est diminué tous les jours un peu davantage. Il se refroidit, il se rétrécit. «
Mais n'en dites rien à personne, pour ne pas effrayer le monde avant le temps. »
C'est pourquoi Brigitte n'avait rien dit. Et lui, toussait sous ses plantes, mais ceux qui étaient au courant hochaient la tête.
On ne peut pas lui donner tort.
Car même au gros de l'hiver, même dans ces villages où le soleil ne se montre pas de tout le jour, rien n'est plus beau à voir d'ordinaire que la pureté du ciel et l'éclat de la neige. Même ici où on ne voit pas le soleil pendant 6 mois, on le sent qui est là, derrière les montagnes, et en voit en délégation ses couleurs, qui sont le rose pâle, le jaune clair, le roux, dont un pinceau minutieux revêt autour de vous les pentes. La neige sur les toits est comme du linge qu'on vient de passer au bleu. Elle est sur le côté des toits comme des piles de draps de lits pliés en 4, dont on voit les épaisseurs, lesquelles débordent. Et la masse des passantes, de temps en temps, se rompt et tombe avec un bruit d'écrasement, comme un fruit mûr. La neige est à la pointe des pieux, comme des bonnets en laine d'agneau. L'air est à la fois immobile et animé d'un mouvement secret. Il ne se respire pas, il se boit. Il est plus transparent que le cristal, si loin que porte le regard, de sorte qu'au lieu de ternir les choses ou de les brouiller, il les rend nettes, il les rapproche, comme des verres de lunettes. Et il y a un moment où le soleil, tout en restant caché pour vous, éclaire brusquement les montagnes qui sont plus au fond de la vallée, toute une grande chaîne en demi-cercle qui est là. Alors, c'est comme un tas de copeaux où on viendrait de mettre l'allumette. Voilà ces grandes vues sur des lieux de montagne, et pendant qu'on est soi-même dans l'ombre, de toutes parts elles flamboient. Des centaines de sommets alignés dans le ciel, de toutes les formes, de toutes les couleurs, les triangulaires, les carrés, ceux à plusieurs pans, les arrondis, ceux qui ne sont qu'un redressement de l'arête, ceux qui, dégagés à leur base, se dressent dans l'isolement, comme des colonnes, comme des tours, comme des troncs d'arbres, les pointus, les usés, les émoussés, les pas pointus, ceux qui sont comme un tas de blé mûr, ceux qui sont transparents comme de l'air dur, comme des superpositions de blocs d'air, ceux qui sont comme un glaçon dont un enfant a sucé la pointe. Tandis qu'à leurs pieds, les grandes pentes juxtaposent des bandes d'ombre et de lumière, rompues un peu plus bas par le pointillé des forêts. Tout s'entend jusqu'au fond de l'espace, tout se voit jusqu'au fond du ciel. Même la légère fumée, comme celle d'un petit train que soulève sur une crête le passage d'un skieur. Et une fois que la nuit est venue et que tout s'est éteint, autant il y avait d'étincelles sur la terre blanche, autant il y a maintenant de scintillations dans le ciel noir. Cet hiver-là, la neige restait grise, le ciel bas, tout était triste. Et même ces derniers jours, on eût dit que le peu de lumière qu'il y avait s'affaiblissait encore, particulièrement le dimanche après-midi où Julien Revaz était arrivé. « Qu'est-ce qui se passe ? » disait-il. « C'est mon père qui m'a appelé. »« Des sottises, » disait Follonier. « Mais enfin, tant mieux pour toi. Ça va te faire des vacances. » On disait à Revaz, « Et là-bas, quel temps fait-il ? » C'était plus tard, dans la soirée, chez Pralon. Malgré l'allongement des journées, il avait fallu, dès les 4 heures, allumer les lampes. Et les hommes avaient fait le chemin de chez eux, chez Pralon. Les inquiets et les pas inquiets, les mains dans les poches. Ils n'avaient pas quitté leur bonnet fait avec des peaux de bête. Ils n'avaient pas quitté leurs vêtements d'hiver. C'est-à-dire qu'ils portaient, comme en décembre, sous leur veste, de gros gilets à manches en laine non dégraissés. Car il continue à geler. Il gèle non seulement la nuit, mais tout le long du jour. Ils avaient allumé leurs pipes, leurs cigares. Les nouvelles de la guerre n'étaient pas meilleures. La TSF les leur avait communiquées vers les 7 heures. Il y avait eu ensuite un concert d'accordéon. Là-dessus, Julien Revaz était entré. Ils avaient appelé Sidonie. « Dis donc, Sidonie, si tu les faisais taire ?»« Elle vous supprime la musique rien qu'en tournant un bouton. » Et s'ils ne se voyaient plus très bien les uns les autres dans la fumée, du moins à présent pouvaient-ils s'entendre. De sorte qu'ils disaient « Hé, Julien, où es-tu ? Viens te mettre ici. Comment ça va-t-il par là-bas ? » Pas mal. Et le temps? Eh bien, quoi? Il fait beau, il fait mauvais, c'est de saison. Aujourd'hui, on a le soleil. Le jour d'après, le ciel fait la grimace. C'est pas comme ici. Hé, dit Julien. Oui, c'est drôle. On n'a jamais autant brûlé d'électricité que cet hiver. Et ton père? Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est lui qui m'a dit de revenir. J'ai demandé congé. J'ai dû raconter là-bas qu'il était malade. « Et puis quoi ? » dit-il. « C'est que c'est vrai. Il a mauvaise mine. Ma mère aussi. »« Ben, croyez-vous ?»« Des sottises !» disait Follonier. « Et si tu nous racontais plutôt ce que vous faites au bord du lac ?»« C'est comme toujours. On remonte la terre, on taille la vigne.
Eh bien, on n'a encore rien pu faire par ici.
On porte le fumier. Il fait des jours où c'est déjà le printemps. On se dit,
on y est.
On ôte le gilet. Il y en a même qui ôtent leur chemise. Et il pleut le lendemain. Mais ça n'empêche pas qu'on est déjà bien avancé et que ça chauffe déjà fort quand le lac au tournant d'un mur vous vient contre avec son soleil.
C'est qu'ils en ont deux, disait Follonier.
Et nous, point.
Il se mit à rire.
C'est pas juste. Ils en ont trop et nous autres pas assez.
Comment veux-tu, nous autres, qu'on remonte la terre?
Il nous faudrait gratter la neige comme des poules.
Comment veux-tu qu'on porte le fumier? L'état glisserait sur la neige et descendrait chez le voisin, et le voisin chez son voisin. Est-ce que ça ferait le compte? Qu'en penses-tu, Arletaz?
Car Arletaz était là, comme toujours, et Arletaz était assis dans un coin devant 5 ou 6 litres vides. Et Arletaz a dit
« Voleur !»
Et c'est tout. Alors Follonier a ri de nouveau. Il disait à Julien Revaz,
« Tu vois comment on est, nous autres. Pas commode, pas tant poli. C'est qu'on vit trop haut et trop à l'ombre, nous autres, parce qu'il y a trop de montagnes et qu'elles sont trop près de nous. Ça nous donne mauvaise mine. On est comme des pommes de terre qui sont restées trop longtemps en cave. Ça nous donne aussi l'humeur triste.
« Pas à moi, dit-il. Mais regardez. Toi aussi, Julien, je vois bien. Quand même, tu viens de là-bas. »
« Il y a déjà des fleurs, disait-il, là-bas. Il y a déjà des oiseaux qui chantent. Et c'est de voir que rien ne bouge encore par ici. Et il y en a qui disent que rien ne va plus jamais bouger. »
« Ah, voilà. Mais santé, Julien. Encore quelques jours de patience et puis tu verras. Tout ira bien. Hé, Arletaz. »
Voleur,
dit Arletaz.
C'est tout ce que tu sais nous dire.
Voleur. Mais on voyait qu'Arletaz ne se tenait même plus assis. On commence par ne pas pouvoir se tenir debout. Lui, il avait beau être bien tassé sur son banc et bien calé sur ses 2 coudes, on le voyait qui glissait de côté. Ses yeux se fermaient, ses yeux se rouvraient. Qu'est-ce qu'il va falloir en faire, hein?
Hola, Arletaz!
Il a essayé de tourner la tête vers vous. Elle ne lui obéissait plus. Voilà comment nous sommes, ce dimanche soir, à 1400 mètres, par temps bouché, assis ensemble une 15aine chez Pralon, où c'est à peine si les lampes électriques arrivent encore à éclairer dans la fumée. On dirait des jaunes d'œufs qui ont coulé. Ils regardaient tous à présent vers Arletaz. Tout à coup, un de ses bras a quitté l'appui de la table et sa tête est venue donner sur le rebord du plateau de bois peint en brun.
Hé !
Il ne cherche même pas à se relever. Son chapeau est tombé par terre, sa barbe trempe dans le vin répandu parce qu'il a renversé son verre. Son bras pend le long de son corps comme une branche cassée. On est venu. On l'a redressé, on l'a remis d'aplomb sur ses 2 coudes, on lui parle, il ne paraît pas vous entendre.
Hé, hey, Sidonie, dit Follonier, combien est-ce qu'il te doit?
Il y a 3 litres ce matin, 4 cet après-midi, et puis ce soir. Elle compte les litres qui sont sur la table. 5 et 4 et 3, 12.
12 à 1,50 franc,
18 francs. Eh bien, on va te payer. Et puis, vous autres, vous allez venir me donner un coup de main. Il fouille dans la poche du pantalon d'Arletaz. Il dit,
« Mon pauvre Arletaz, je te vole encore une fois, vois-tu. Mais il le faut bien. »
Il a retiré sa main pleine de petites monnaies, de billets pliés, de pièces d'argent.
« Tiens, tu es encore riche. »
Puis, vous voyez, vous autres, 5, 10, 12, 14... Alignant à mesure sur la table les écus, les pièces, les piécettes. 17 francs 50, 18 francs, ça fait le compte. Et vous voyez, je remets ce qui reste où je l'ai pris. Si jamais il m'accuse encore, vous me servirez de témoin. Il riait. La soirée finissait mieux qu'elle n'avait commencé. Il y avait de la distraction. Ils ont dit, Maintenant, il s'agit de le porter chez lui, sans quoi il va rouler sur le plancher. » Ils s'y sont mis à 5 ou 6. Les autres s'amusaient de les voir faire. Ils avaient tapé sur l'épaule d'Arletaz. Ils lui avaient dit « Arletaz, il te faut venir, c'est l'heure. Pralon ferme. » Ce n'était pas vrai. « Tu viens, Arletaz ? » disait-il. Mais il n'entendait même pas, étant enfermé en lui-même, le front appuyé sur le bras, si bien qu'on ne voyait plus que le mauvais côté de sa tête continuer en arrière des oreilles par la barbe. Alors voilà que Follonier l'a empoigné par les cheveux. « Allons, tu entends ?» disait Follonier. Et il lui a relevé la tête, mais sitôt qu'on la lâchait, elle retombait. « Eh, Lamon, prends-le par les pieds !» Les autres s'étaient mis debout pour ne rien perdre du spectacle. Ils faisaient cercle autour de Follonier. « Eh, Hervaz, donne-nous toi aussi un coup de main. Occupez-vous du bas, moi je veille le haut. C'est ça, tirez-le de côté. Attention au banc, ça y est. » Il disait « Voyons, Arletaz, sois gentil, tu seras tout de même mieux dans ton lit. » Et puis, s'étant penché à l'oreille d'Arletaz, « Et puis, tu sais, si tu te laisses faire, ta fille, oui, elle reviendra. » Arletaz s'était tout à coup redressé. « Adrienne ? Tu ne voudrais pourtant pas qu'elle te voie en pareil état. Où est-ce qu'elle est ? Viens toujours. »« Voleur !» a dit Arletaz. Il s'est laissé retomber sur la table. Mais Follonier et le patron l'avaient empoigné par les épaules. On leur a ouvert la porte. La fumée cherchait à sortir et ne pouvait pas sortir, parce qu'en même temps le brouillard cherchait à entrer. Il y a eu lutte et rivalité entre le brouillard et la fumée, ce qui faisait une espèce de voûte au-dessus d'eux qui se tenait penchée. Mais quelqu'un a dit, tellement il faisait sombre, « Il faudrait une lanterne !» On avait été chercher une lanterne. Heureusement, sans lanterne, on n'aurait même pas vu le chemin. Arletaz gémissait. La lanterne allait devant, puis venait ceux qui tenaient Arletaz par les pieds, puis ceux qui le tenaient par les épaules. Et Arletaz pendait entre eux, de sorte que le milieu de son corps traînait par terre, où c'est gelé, où c'est un mélange de glace et de terre. Mais on ne voyait rien. Tandis que par moments il essayait de se débattre, puis il y renonçait, puis plaignait, et eux disaient « On va y être !» avançant derrière le rond pâle que faisait le falot sur le sol. Les lumières étaient éteintes dans les maisons qu'on ne voyait pas. Follonier disait « Ça va ?» Il disait « Ça va !» Puis il y a eu un moment où ça n'est plus allé. Ils ont déposé Arletaz par terre. Et il est resté là, sans bouger, comme un mort. Il riait. La lanterne est repartie. Il disait « Heureusement que le mort est léger. » « On arrive !» disait Follonier. La lanterne a pris à droite. « Va devant, voir si c'est ouvert. » Il n'y a plus eu de lanterne, mais une voix est venue qui disait « Oui, c'est ouvert. » « Alors éclaire-nous, on ne sait plus où on met les pieds. » Parce qu'ils butaient contre des pierres. Puis ils ont vu qu'il y avait, en travers du chemin, deux vieilles marches mal dégagées d'une croûte de terre et de glace qui en rendaient la tranche glissante. Alors ils avaient essayé de remettre Arletaz sur ses jambes, mais n'y avaient pas réussi. Ils ont passé difficilement la porte de la cuisine. Et d'ordinaire, on ne porte pas les morts chez eux, on les en sort. Eux, il portait chez lui le mort. À peine ils ont pu traverser la pièce, tellement elle était encombrée. Il leur a fallu écarter du pied toute espèce d'objet qui traînait par terre avant de parvenir à ce qui avait été un lit, et qu'on reconnaissait pour être un lit aux montants de bois, entre lesquels il y avait un amas de chiffons sales qui étaient des lambeaux de drap et des débris de couverture. Il était environ 10 heures. Elle s'étonnait qu'Augustin, son mari, ne fût pas encore de retour. Il l'avait quitté après le souper pour aller dire bonsoir à ses parents. C'était la maison d'à côté. Eux on leur avait construit une petite maison neuve, rien que pour eux, quand ils s'étaient mariés. Ainsi, les vieux, comme il convient, sont parmi les vieilles choses. Eux sont les jeunes, c'est pourquoi on les met parmi les choses neuves. Elle se demandait « Qu'est-ce qu'il fait ?» Elle s'ennuyait vite quand elle était seule. À quoi ça servirait-il d'être belle, comme on est, s'il n'y avait pas des cœurs pour en être troublés et des voix pour le dire au monde ? Elle avait passé une partie de l'après-midi avec Jeanne et Marie. Elle avait rencontré des gens en rentrant chez elle. Elle avait ri, comme toujours, et bavardé. À présent, plus personne. Et quand l'aiguille du réveil matin, qui était placée au-dessus du fourneau sur un rayon orné d'une dentelle de papier rose, eut dépassé le chiffre 10, elle n'y avait plus tenu, elle s'était levée. Elle les avait trouvés, les trois, qui étaient assis dans la cuisine de l'ancienne maison, Augustin, son père et sa mère. Ils ne disaient rien, tous les trois. Eux, le vieux et la vieille, ils étaient usés. Eux, il était dans la nature qu'ils fussent déshabitués de parler, parce que le sang se refroidit, et puis qu'à force d'avoir dit, on finit par n'avoir plus rien à dire. Il y avait un journal sur la table, mais ni le père ni la mère Antide ne le lisaient. Et c'est encore dans la nature, bien sûr, parce qu'ils étaient l'un et l'autre fatigués. Mais Augustin, il ne parlait pas, il ne lisait pas, lui non plus. Ils étaient là tous les trois à se taire. Et comme elle avait poussé la porte, ils ont tourné tous les trois à la fois vers elle trois mêmes figures ravagées, de sorte qu'Augustin semblait aussi vieux que ses parents. « Eh bien ?» Il ne répondait pas. Ils étaient comme Arletas tout à l'heure. « Savez-vous quelle heure il est ?»« Ma foi !» a dit le père Antide. Et la mère Antide, elle, a levé une de ses mains qui était posée l'une sur l'autre devant elle. Elle la laisse retomber comme pour dire « Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'on s'occupe encore du temps quand on sait que le temps est une chose qui va finir ?» Isabelle avait pris Augustin par le bras. Elle lui a dit « Est-ce que tu viens ?»« Et Jean, où est-il » disait-elle. « Oh !» dit la mère Antide, « il y a longtemps qu'il est allé se coucher. Il est insoucieux, lui, il est jeune. Nous autres. » Isabelle n'avait pas eu l'air d'entendre, et Augustin s'est laissé faire, il la suivit. Il tendait la main dans la nuit, demandant « Hé, où est-ce que tu es ?» Mais elle, elle a ouvert la porte de leur petite maison à eux, faisant ainsi avancer jusqu'à lui la lumière de la lampe comme un tapis qu'on déroulerait sur les marches du perron. Il y avait maintenant autour d'eux, sur les murs, leurs parents qui les regardaient. Et le sergent d'artillerie croise les bras sur sa poitrine, de façon à mettre en valeur les galons qu'il a sur les manches. Le lit était si haut perché qu'il fallait s'aider d'une chaise pour y atteindre. Le lit avait un beau couvre-pied de dentelle à fond grenat. C'est un lit à la vieille mode, avec une garniture à la nouvelle mode. C'est qu'on est jeune, n'est-ce pas ? Augustin ! Elle s'était couchée à côté de lui. Elle avait éteint la lampe, et il n'y avait plus rien eu à voir, ni à entendre, nulle part, dans le monde vide et silencieux. Ils en avaient été retirés, ils avaient été transportés dans un autre monde qui n'était qu'à eux. Elle avait fermé les portes, toutes les portes. « J'ai tout fermé, Augustin, » disait-elle, « et on est chez nous à présent, on est chez nous, rien que les deux. » Est-ce qu'elle lui parle avec des mots véritables, ou si c'est en dedans qu'elle lui parle? Parce qu'il y a beaucoup de façons de parler. Mais il faut essayer encore, et une dernière fois essayer. Alors elle lui parle avec son pied qui va chercher le sien, avec sa main impatiente, avec son corps gourmand de lui. Il ne semble pas comprendre. Il s'est tourné du côté du mur, elle l'appelle à haute voix. « Augustin, hé, Augustin !»« Ah » dit-elle, « tu ne dormais pas. Eh bien, écoute, il y a une chose que je voulais te demander. Est-ce que tu viendrais avec moi ?» Il ne s'est même pas retourné. Où ça ?
Là-haut, sur les crêtes.
Il ne disait de nouveau plus rien. Et elle, « Oh, Augustin, est-ce que tu es muet ? Ou bien est-ce que tu ne m'entends pas ? C'est comme si je te parlais du haut d'une montagne, et toi tu serais dans le bas. Comme si je t'appelais d'un côté de la vallée, et toi tu serais de l'autre côté. Est-ce qu'on est si loin l'un de l'autre en même temps qu'on est si près ? Augustin, tu ne réponds rien. Est-ce que tu viendras avec moi ?»«
Quand ça ?»
Elle a fait le compte, elle a dit « Ça doit être le 13, mercredi prochain. » Il a demandé « Quoi faire ?»«
Allez dire bonjour au soleil, Augustin, parce qu'il va revenir quand même. »
Mais il a grogné quelque chose et puis s'écarte d'elle, gagnant dans la largeur du lit, toujours plus du côté du mur. Chapitre 13. Alors Jean était occupé à la remise le lendemain matin quand Isabelle est arrivée. Il était assis sur le gros plot de bois où est enfoncée la petite enclume qui sert à battre les faux. Il était en train de réparer une pelle, ce qui a fait qu'il avait dû lever la tête, recevant le jour de face, bien que ce fût un pauvre jour. Elle a dit « Je suis vite venue parce qu'Augustin est allé au village. Heureusement que tu es là. » Il a posé la pelle en travers de ses genoux.
« Comment ça va ?
Et toi ?
Ça va bien, merci. »
Il lui a fait le salut militaire en portant la main à ses cheveux frisés. Ses dents étaient belles, blanches dans le bas de sa figure, qui avait la couleur du bois dont sont faits les façades des chalets. Il était assis, elle était debout, elle a repris.
« Tu as bien dormi ?
Oh, moi, je dors toujours bien, tu sais. »
« Eh bien, moi, je n'ai pas dormi, » dit-elle.
Et puis, regarde par la porte ouverte vers le chemin qui mène au village, si Augustin n'allait pas se montrer, peut-être. Mais on ne voyait personne. D'ailleurs, elle le verrait venir de loin.
« Il te faut prendre ton cornet, Jean. Le cornet de quand tu gardais les chèvres. Et puis tu souffleras dedans. »«
Pourquoi faire ?»«
Écoute, » lui dit-elle, « je ne t'ai pas encore expliqué. » C'est mercredi prochain. Tu sais bien ce qu'ils disent. Eh bien, nous, on ira, veux-tu ? Juste au moment où ils disent que le soleil ne se montrera plus jamais, nous, on monte dans la montagne pour l'aider à sortir. Parce qu'il sortira, tu sais.
Mais Augustin,
il ne veut pas venir.
Et toi ?
Moi, je veux bien.
Alors tu iras vite prévenir Maitrier, parce qu'il connaît mieux les passages que nous. « Demande à Maitrier de prendre son fusil. Moi, je dirai à Jeanne et Marie de venir. On sera 5 ou 6. On ne dira rien à personne. On partira de bon matin. Et toi, tu souffleras dans ton cornet, comme quand tu gardais les chèvres. »
Elle regardait toujours de temps en temps vers le chemin. Lui riait, assis sur son plot. Ils sont là, les deux, qui se parlent, avec des figures heureuses, pendant qu'elle jouait sur sa poitrine avec les pointes de son fichu.
« Tu étais petit, je me souviens, et moi pas beaucoup plus grande que toi. Tu te souviens, quand tu partais avec tes chèvres de bonne heure le matin ? Nous, on regardait de derrière les vitres. Nous autres, on regardait pieds nus et en chemise. Et il y avait la grande blanche qui partait toujours en avant. Il y avait la petite noire qui ne voulait jamais suivre. Il y avait la mère Émonée qui était toujours en retard. » Alors tu te mettais en colère et tu soufflais de toutes tes forces dans ton cornet.
Je me souviens, c'est pas si vieux.
Eh bien, tu vas recommencer. Frotte-le avec de la poudre blanche pour qu'il soit bien brillant quand le soleil reviendra.
C'est un instrument de cuivre avec une embouchure de corne noire.
Lui riait.
Une bonne idée, disait Jean. Ça nous fera une promenade.
Et puis ça marquera mieux la différence, disait-il, parce qu'il y a ceux qui vivent dans les chambres et il y a ceux qui vivent en plein air. Nous, on est ceux qui vivent en plein air.
Je vais m'entendre avec Jeanne Emery. On se donnera rendez-vous chez elle. Il faudra seulement qu'on se garde le secret les uns aux autres, ceux qui viendront. Toi, Maitrier, Tissière, Jeanne Emery, moi, et puis on verra. Maitrier avec son fusil, « toi avec ton cornet,
et on le fera sortir d'où il est, le soleil, même s'il ne veut pas. »
Moi, je pense bien qu'il voudra.
Parce qu'ici, au village, tu te rappelles, il ne se montre guère que vers les 10 heures. Nous, on l'aura avant 8 heures, et on le leur annoncera.
C'est entendu.
Jean se lève et s'approche d'Isabelle. Seulement, Isabelle, puisqu'on s'entend bien entre nous, est-ce que tu me donnes quelque chose?
Elle a dit. Quoi?
Oh, dit-il. « Veux-tu? Sur le front !»
Elle le prend par les deux oreilles et vite jette encore un regard du côté du chemin. Et puis, là où c'est doux, étroit, là où l'eau s'est juste sous la peau, de sorte qu'elle est bien tendue, au-dessous de l'endroit où sur une même ligne les cheveux sont plantés drus, comme au bord d'un champ de blé les tiges mêlées par le vent.
« Oh, bien sûr » disait-elle. « Et c'est juste, puisque lui il ne veut pas. »
Alors il a fait encore une journée triste, puis il a fait une seconde journée triste. C'était vers les 10 heures du soir. Les lumières, en s'éteignant aux fenêtres, retranchaient les maisons du monde et faisaient d'elles de la nuit dans la nuit. Les maisons avaient renoncé, l'une après l'autre, à être. Il n'y avait plus eu dans toute cette mort qu'une faible lueur qui indiqua la place du village et marqua encore qu'il était en vie. C'était la lampe de Brigitte qui continuait à briller, mais à peine. Et est-ce qu'elle ne va pas s'éteindre? Et qu'est-ce qu'il restera de nous si elle s'éteint?
Denis Revaz s'était couché, mais n'avait pas pu dormir. Il était peut-être 11 heures quand il s'est dit « Est-ce qu'on m'appelle? Ou bien si je rêve ?»
Mais on l'appelait de nouveau. Alors il a poussé sa femme du coude.
« Dis donc, Frosine, tu as entendu ?»
Leurs deux garçons devaient dormir depuis longtemps. Mais elle, il a bien vu qu'elle avait dû rester éveillée, bien qu'elle fût sans mouvement à ses côtés. L'un et l'autre, là, sans rien dire, tous deux pensant sans doute aux mêmes choses, parce qu'elle avait répondu tout bas
« Qu'est-ce que c'est ?»«
Denis !»
Il n'a pas pu douter cette fois qu'on ne l'appela. La voix venait de devant la maison. Elle était à la fois faible et impérieuse. Elle n'était qu'un murmure et en même temps comme un cri. Et il s'est assis sur le lit. Il a dit à sa femme « Toi, tu restes là !» Puis est sorti du lit sans allumer la lampe, passe son pantalon, sa veste, ne faisant aucun bruit à cause de ses garçons. Et on continuait d'appeler tout bas pendant ce temps.
« Hé, Denis ! Hé, vous entendez, Denis ?»
Puis il y avait un silence, puis la voix reprenait. Et maintenant il lui semblait la reconnaître. Et c'était bien qui il pensait, parce qu'ayant ouvert la porte, il avait reconnu Brigitte.
« Denis, il vous faut vite, vite venir, représentez-vous. Ah, mon Dieu !»
Il dit.
« Quoi ? Venez vite, son feu s'est éteint. »«
Le feu de qui ?»
Brigitte a dit. « En Zévui. »
« Eh bien !»«
Eh bien !» dit-elle. Il ne l'aurait pas laissé éteindre si... Je le connais, moi. À 9 heures, ça bougeait encore dans ses vitres. Et moi, je me suis endormie, mais j'ai été réveillée en sursaut un moment après, comme s'il y avait quelqu'un qui me disait qu'il s'était passé quelque chose. Et là-haut, ça ne bougeait plus. Denis, il vous faut venir.
Je veux bien, mais il faudrait être 2 ou 3.
Appelez vos garçons.
Il secoua la tête.
Non, disait-il. Pas eux.
Mais vous, est-ce que vous ne pourriez pas aller chercher quelqu'un pendant que je me prépare ?
Elle était revenue avec Follonier et Métrier. Ainsi, ils ont été les 4. De la maison de Revaz, on ne pouvait pas voir celle dans Zévui. Il fallait être arrivé au tournant du chemin pour qu'elle se montrât enfin. Et ce soir-là, elle ne s'est pas montrée. La lueur qui en marquait la place et qui était un peu comme quand le garde-voie élève et abaisse son drapeau d'étain, avait été roulé et emporté. La neige elle-même était sans couleur. Elle faisait seulement, dans le bas de la nuit, une vague lueur, comme celle qui passe au-dessous d'un rideau qui traîne. C'est cette dernière nuit. Ils viennent, ils étaient les 4, ils étaient finalement arrivés devant la porte d'Anzévui. ils entrent. Et ils avaient été jusqu'alors dans la nuit, mais ils se sont trouvés dans une autre plus grande nuit.
« Charrette !» dit Métrier. « Est-ce que j'ai des allumettes ?»«
J'en ai !» dit Follonier. Il se tenait sur le pas de la porte. Là, Follonier frotte une allumette soufrée, puis tend le bras vers l'intérieur de la pièce. Seulement, la petite flamme bleue n'avait pas éclairé, et la flamme plus vive qui est venue ensuite, pas assez.
« Oh !» disait Brigitte, « c'est qu'il faudrait pouvoir aller chercher une bougie. Elle doit être sur le manteau de la cheminée, parce qu'il s'éclairait avec son feu, et seulement avec son feu. »«
J'y vais !» dit Follonier. Il frotte encore une allumette, puis s'arrête. Le silence qui remplissait la pièce était comme quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Brigitte avait fini par aller rejoindre Follonier. L'allumette s'était éteinte, ils se cognent à la table, puis voient la table. Et Brigitte, tout bas, a dit
« C'est là !»
Elle tenait Follonier par le pan de sa veste. Puis, la bougie ayant été allumée, ils ont été vus tous les deux.
« Qu'est-ce que je vous disais ?»
Follonier, élevant la bougie, s'était tourné vers les deux autres qui étaient restés sur le pas de la porte et qui s'approchent. Brigitte était là, les mains jointes, tournée vers le fauteuil qui se distinguait maintenant. Elle s'est signée trois fois de suite. Et dans le fauteuil, il y avait le père Enzévui, parce qu'il était mort comme quand on s'endort, comme la lampe qui s'éteint faute d'huile, comme la fontaine qui cesse de couler par manque d'eau, comme se tait le son de la cloche quand le battant n'est plus en mouvement. Ses mains s'étaient seulement ouvertes, le livre avait glissé de ses genoux, sa tête avait penché de côté. On ne voyait plus sa figure, mais seulement ses cheveux et sa barbe, qui faisaient une tache blanche, comme celle qu'il y a dans le haut des montagnes où l'hiver dure tout l'été.
« Bien, quoi ?»
C'était Follonier. Il ne pouvait pas rester longtemps sans rien dire.
« Bien, quoi ? Il était vieux. Il avait fait son temps. Qu'est-ce que vous voulez ? Il ne faisait besoin à personne.
« Il faut 12 y mettre, disait Follonier, « pendant qu'il est chaud. » Il a posé la bougie sur la table.
« C'est pas lui seulement. C'est nous, » disait Brigitte. « C'est nous autres. »«
Oh, allez doucement, » disait-elle. Ayant vu Follonier et Métrier qui s'approchaient du corps, se préparant à l'emporter. Et le père Revaz, lui, n'avait pas bougé de sa place, mais on voyait sa mâchoire trembler.
« Allez doucement, s'il vous plaît. Et où est-ce que vous voulez le mettre ?»«
Il a bien un lit, » a dit Follonier.
« Oh, » disait-elle, « il n'est pas fait, il n'y couchait plus ces derniers temps, il avait trop de peine à respirer. » « Attendez que j'aille faire de l'ordre. »
À présent, elle s'affairait et elle disait « Éclairez-moi !» s'étant dirigée vers l'angle de la pièce où il y avait en effet un vieux lit de sapin fait d'un simple cadre de bois avec une paillasse et des couvertures. Le traversin était sans housse, la paillasse sans drap. Mais elle a lissé la paillasse du mieux qu'elle a pu de la main, elle a mis le traversin où il fallait. Et eux, alors, avait apporté Enzévui, c'est-à-dire Cyprien et Follonier.
« Il ne pèse pas plus lourd qu'Arletaz, » disait Follonier, « et il se laisse encore mieux faire. Il n'est pas non plus beaucoup mieux logé que lui. »
Pendant qu'il couchait Enzévui sur sa paillasse, et Brigitte lui a joint les mains, et on lui a fermé la bouche en lui nouant un mouchoir autour de la tête. Puis Brigitte,
« Il faut que j'aille chercher l'eau bénite et mon chapelet. »
Alors Revaz lui avait dit « Je vais avec vous. » Il n'était pas revenu. Brigitte, elle, à son retour, avait tout disposé autour du mort, comme c'est l'habitude jusqu'au moment où ils nous quitteront pour toujours. Elle avait allumé les bougies, mis une nappe propre sur le coin de la table, elle s'était assise à côté du lit. Elle hochait la tête.
C'est bien ce qu'il m'avait annoncé, parce qu'il m'avait dit « Je passerai en même temps que lui. »
Bah,
c'est signe qu'il a vu clair, c'est signe qu'il ne s'est pas trompé.
Il a confondu, disait Follonier. Il s'est pris pour le soleil.
Oh, taisez-vous !
disait Brigitte. À ce moment, Métrier s'est élevé de dessus sa chaise.
« Ah, tu nous quittes ?»
disait Follonier.
« Oui, il faut que j'aille, je vous enverrai quelqu'un.
Moi, je reste encore un moment. »
« Moi, je vais rester tout le temps, » dit Brigitte.
« Seulement, Cyprien, » disait-elle, « regardez en passant si ma lampe brûle bien toujours. »
Elle, c'est dès 5 heures, cette même nuit, qu'elle s'est réveillée. Car, même par temps couvert, il commence à faire clair de bonne heure en avril. Elle bouge un genou, elle bouge l'autre, elle les bouge juste assez pour qu'Augustin finisse par lui dire
« Qu'est-ce que tu fais ?»
Mais sans trop se réveiller.
« Je sais pas, j'ai soif, je vais boire un verre d'eau à la cuisine. »
Elle se glisse hors du lit. Elle n'avait pas allumé la lampe. Ses pieds sont légers et prudents. Elle est sortie de la maison. Elle a été ensuite dans la neige et dans la nuit, mais le chemin n'était pas long, si bien qu'elle a vu bientôt briller les fenêtres de la chambre de Jeanne Emery, qui était déjà éclairée. Et, de dessous les fenêtres de Jeanne Emery, elle n'a eu qu'à dire
« Jeanne, c'est moi !»«
Quelle heure est-il ?
Ils vont venir !» disait Isabelle.
« Oh ! » dit Jeanne, « on a le temps !»«
Tu es prête ?»«
Je suis prête. »
« Et mon costume ?»«
Le voilà. »
Sur le lit étaient étalés l'un à côté de l'autre la jupe et le corsage d'Isabelle.
« Seulement, » disait Jeanne Emery, « j'ai peur que tu n'aies pas assez chaud parce que c'est léger. »«
Oh !» disait Isabelle, « j'ai mon châle. »
Puis s'est mise devant le miroir. Puis Jeanne a approché au bout de son fil l'ampoule électrique qu'elle a accrochée à un clou.
« C'est que j'ai manqué d'étoffe, » disait Jeanne.
« Ça ne fait rien, j'ai mes colliers. »
Elle levait les bras en riant devant le miroir. Son rire était comme de l'eau qui coule, ses dents comme les petites pierres blanches qu'on voit bouger au fond de l'eau.
« Ça me sert. »«
Attends, » disait Jeanne Emery.
Jeanne Emery tirait des deux mains sur le caraco.
« Il n'est pas en place, et puis tu es ronde. »
« Oh !» disait-elle. « On va te voir par devant jusqu'au bas du cou. »«
Ça ne fait rien, c'est le printemps.
Où est-ce que tu as mis mon collier ?
Et où as-tu mis mes boucles d'oreilles ?»
Le collier a été comme une entaille rouge à son cou brun. Il y a eu comme 2 gouttes de sang qui ont perlé à ses oreilles. Puis, inclinant le miroir, elle s'y est regardée des pieds à la tête. Elle avait les pieds petits dans ses gros souliers à clous. Elle se regarde encore, elle a le mollet rond sous ses épais bas de laine, la taille fine, la nuque pleine.
« Dis donc, Jeanne, tu crois que ça va ?»
Et Jeanne Emery, « Je crois que ça va. »
Alors Isabelle a pris son châle et se l'est noué autour de la poitrine, a attaché sous son menton un fichu noir à petits bouquets de toutes couleurs.
Ça y est.
Au même moment, on a entendu la voix de Jean sous les fenêtres.
« Êtes-vous là ?»
Isabelle lui a dit
« As-tu ton cornet ?»
Il l'a tiré de dessous sa veste. Ensuite, Métrier et Tissière étaient parus. Isabelle a dit à Métrier
« Et vous, avez-vous votre fusil ?»
Mais on avait déjà vu le canon qui dépassait par-dessus son épaule.
« Et des cartouches, Métrier ?»
Il a fouillé dans sa poche et il en avait plein la main. C'était des cartouches à balles, comme celle dont on se sert pour aller chasser le chamois. « J'en ai, vous voyez, et plus qu'il n'en faut, parce qu'il faudra tirer combien de fois ?»«
13 fois de suite. »«
Pourquoi 13 ?»«
Parce que c'est le 13 du mois. »
À ce moment, ils avaient eu une surprise, car il n'y a pas eu que Lucien Revaz, le cadet, qui s'est présenté, mais aussi Julien, qu'on n'attendait pas.
« Tiens, vous venez ?»
« Tiens, tu viens, toi aussi ?»«
Oui, » disait Julien, « parce que je suis pressé, moi aussi, de le voir, et je m'ennuie. »
Et cependant, Métrier avait dit,
« Vous savez quand Zévu est mort ?»«
Eh bien, voilà, ça y est, c'est fini, »
disait Isabelle. « Tout commence ou tout recommence. Allez devant, Métrier, c'est vous qui nous montrerez le chemin. Et puis toi, Jean, tu vas ensuite. » Elle avait ouvert la porte, et Métrier,
« Oui, Seulement il y en a d'autres qui prétendent que c'est la fin pour tout le monde, du moment quand Zévui est mort. » Mais Isabelle avait fait entendre son rire, et il a été de nouveau comme le chant du merle avant le temps. Ils se sont tus d'abord, parce qu'ils avaient allongé une partie de la rue qui traverse le village. Ils marchaient deux par deux, métrayés en tête. Jean était à côté d'Isabelle, et elle lui avait pris la main. Du côté du levant, dans le bout du village, la lampe de Brigitte éclairait doucement derrière les carreaux. Et ils ont vu ensuite qu'il y avait cette nuit-là une autre fenêtre éclairée, et beaucoup plus qu'à l'ordinaire, d'une lumière moins incertaine et moins variable et plus fixe. C'étaient les bougies qui brûlaient sur le coin de la table, dans la cuisine, dans Zévui. Ils avaient donc passé en silence, près de la maison dans Zévui. Ils avaient commencé à monter. La neige était gelée parce qu'il n'avait pas cessé de geler la nuit. Mais le jour, elle avait commencé à fondre d'en dessous, de sorte que son épaisseur était déjà diminuée. Métrayé marchait en tête, et la piste qu'il ouvrait était reprise par Tissière, puis par les autres, et élargie. Pendant qu'au-dessous d'eux, le village continuait à dormir, sous beaucoup de petits toits, à peine aperçus, à peine dessinés sur leurs bords par un trait bleu. Aucun changement n'était encore visible autour d'eux, ni à leurs pieds. Il a fallu qu'ils se fussent élevés davantage pour que la neige prît enfin une apparence de couleur. Était-ce bien d'ailleurs une couleur? On vit quelque chose de pâle naître peu à peu au-dessous de soi, sans dessin ni contour, mais une vague clarté s'en dégageait quand même. C'est d'en bas que naissait le jour, et eux, ils ont été portés par lui dans l'air encore occupé par la nuit. « Est-ce qu'il faut que tu souffles dans ton cornet, Jean ?»« Oh, pas encore, car il y avait au-dessus d'eux la crête dont ils n'étaient pas loin, mais qu'ils avaient à atteindre d'abord, parce qu'on domine de là les deux versants. On est au point de rencontre des deux pentes de la montagne. On peut se pencher d'un côté, on peut se pencher de l'autre, ayant un pays tout entier, puis un autre pays tout entier au-dessous de soi. » « Et alors, est-ce que tu vas pouvoir souffler dans ton cornet ?» Ils étaient les sept. Ils sont arrivés sur l'arête. La neige en avait été balayée par les vents. C'est qu'ici, ils ne sont contenus par rien, qu'ils soufflent du nord ou du sud. Eux se sont trouvés faire face à ce dos où les blocs, posés à la suite l'un de l'autre, ont eu soudain une couleur et une forme. Ils sont devenus gris et on voit qu'ils sont gris. Ils ne sont pas seulement gris, mais veinés, et on voit leurs veines, et tachés, et on voit leurs taches. Dans les vides qu'ils laissaient entre eux, un peu de neige était restée. On voyait la neige. Ailleurs, on voyait la terre, et il y avait dessus un peu de gazon jauni, du jaune, du blanc, du gris, du brun. C'est alors qu'Isabelle avait tendu le bras. « Regardez là-bas ! Qu'est-ce que j'ai dit ?» Il s'était arrêté. On la voyait maintenant, elle. Elle aussi, elle les voyait. On voyait la couleur de leur visage, on voyait la couleur de leurs vêtements. Les guêtres de Métrayer, les jambières de Tissière, la moustache de Julien Revaz. Et elle, ses joues brunes qui étaient dans leur milieu comme la pêche quand elle mûrit. « Ça va être le beau temps !» « Souffle dans ton cornet, Jean, qu'ils nous entendent du village. Souffle comme à la caserne. Dis-leur, debout, les vieux, c'est le moment. » Jean a soufflé dans son cornet. Alors, on a vu le village renaître peu à peu à lui-même. De là-haut, ils l'ont vu ressusciter à la lumière, ayant baissé la tête en même temps que Jean tournait vers lui l'embouchure de son instrument. L'air avait été nettoyé entre eux et lui. L'air était devenu tout à fait transparent. Et là, au fond, les toits s'apercevaient parfaitement, étroitement serrés l'un contre l'autre, faisant des carrés un peu bleus et qui penchaient dans des sens différents. Le cornet de Jean les désignait. Et au-dessus du bleu des toits, un autre bleu, plus pâle, s'est mis alors à bouger, ayant un mouvement comme celui des vagues que le vent doucement balance sur le lac par les beaux jours. Il venait, là en bas, d'allumer le feu dans les cuisines. Les femmes étaient devant leurs fourneaux ou bien penchées sur le foyer. Elles ont dit « Qu'est-ce qu'on entend ?» Elles lèvent la tête, elles se disent « Qu'est-ce qu'on entend ?» Mais c'est le cornet du berger des chèvres. Puis, se tournant vers la fenêtre, « Tiens, il va faire beau aujourd'hui !»« Oh, mon petit, qu'est-ce qu'il y a ?» Justine et Monet avaient pris son enfant contre elle, l'ayant soulevé droit en l'air. Elle avait appliqué sa tête contre sa tête, et joue à joue, elle lui parlait. Mais lui, continuant d'ouvrir une grande bouche sans dents dans une figure toute rouge et où les yeux étaient disparus dans les plis de la peau que les cris faisaient remonter, tout à coup il perdait le souffle et il y avait un long silence d'où il ne sortait plus que par une espèce de déchirement. « Oh, mon petit, qu'est-ce qu'il y a? Où as-tu mal? Est-ce que vraiment tout est fini ?» Mais alors le grand jour est entré par la fenêtre. Elle s'en approche, elle se met dedans, puis tourne l'enfant en pleine lumière. « Oh !» se disait-elle, « il n'a plus Dieu tant il pleure. Mais il est rouge, il est beau rouge. Il ne serait pas si rouge s'il n'était pas en bonne santé. Est-ce que ce serait peut-être seulement qu'il a faim ?» Elle s'est assise près de la fenêtre, elle a ouvert son caraco. Et tout à coup, les cris se taisent. Elle a pris le bout de son sein entre ses doigts, elle se penche en avant. La petite tête à fin duvet d'oiseau s'est alors tournée de côté, et il s'est fait un petit bruit, à cause de quelque chose qui va de moi à lui, à cause d'une circulation. De sorte qu'elle ne bougeait plus. Elle levait seulement les yeux, non pas la tête, et un sourire était sur sa figure penchée comme une seconde lumière, cependant qu'elle regardait par les petits carreaux la neige qui devenait rose, comme si les œillets de son jardin fleurissaient tous en même temps. Jean Antide, là-haut, souffle dans son cornet. Voilà la mère Revaz qui appelle son mari. « Denis, Denis, viens voir, tu t'es trompé, le temps s'éclaire, sûrement qu'on va voir le soleil aujourd'hui. » Et Jean Antide, là-haut, « Ça y est !» Et il remet le cornet sous sa veste parce qu'Isabelle lui a dit « Ça suffit pour le moment. » Puis a dit à Métrier « Il nous faut suivre la crête jusqu'en Sésime. On peut ? Dites donc, Métrier. » « Bien sûr qu'on peut, puisqu'il fait beau. » Ils ont marché sur ce dos de pierre qui était ensuite un dos de terre. Ils marchent, tantôt sur le roc où les clous grincent comme les dents contre un os, tantôt sur une épaisseur d'herbe, pareille sous les pieds à un tapis de feutre. Ils sont parvenus ensuite à un élargissement où poussaient quelques mélèzes déjetées qui avaient l'air de fumée grise, poussées de côté par le vent. Mais à travers ces fumées, tout à coup, qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Sur notre gauche. Jean, souffle dans ton cornet. Il a soufflé dans son cornet, et Métayer continuait à tendre la main à Isabelle. Aux places difficiles, Métayer, qui était plus haut qu'elle, la tirait par devant. Jean la poussait par derrière. Hé, Jean, tu vois, souffle de nouveau. Le cornet s'est mis à briller, et elle disait, j'ai trop chaud. Il s'était arrêté de nouveau sur une pointe. On commençait à voir la terre dans toute son étendue. Le ciel au-dessus d'eux commençait à se dévoiler. Elle disait « J'ai trop chaud !» Elle a ôté son fichu de tête. Brune et rose, on voyait son cou, on voyait ses boucles d'oreilles, on voyait ses cheveux où un peu de neige qui avait fondu faisait des gouttelettes. Et elles ont été comme quand la rosée, à la pointe de l'herbe, brille dans le jour. « Ah » dit-elle, « mais on va y être ou quoi ?» Et sa poitrine se gonflait sous son châle. « On y est presque, » disait Métrier. « Il n'y a plus qu'une dernière tirée. On sera juste là-haut au bon moment. Hé, la dorée !» Regardant Isabelle, « Hé, vous deux, les dorées !» disait-il en regardant Jean. Et il y a nous autres, les brûlés, n'est-ce pas, tissière? Eh bien, c'est nous qu'on tire. Vous, vous n'avez qu'à vous laisser tirer. »
Les nuages, à l'horizon, se rassemblaient en flocons, comme fait le lait quand il caille. Les flocons étaient gris, ils sont devenus roses. Ils se sont disposés en lignes régulières et tremblées, comme celles que fait l'eau dans le sable au bord de la mer. Et c'est à gauche que ça a commencé. Une première pointe y apparut, comme une bougie avec sa flamme. Eux, ils étaient encore dans l'ombre, mais là-bas, du côté du levant, tous ces feux l'un après l'autre s'étaient maintenant allumés. Et pas seulement les imaginer, pas seulement ceux qu'on s'invente à soi-même, pas seulement ceux qu'on se représente en fermant les yeux, comme avant, mais les réels, les véritables, ceux qui se voient, qui pourraient se toucher, qui sont là, qui vous tirent le regard dehors, qui vous arrachent à vous-même. Les vapeurs se roulaient en boules, qui étaient posées les unes à côté des autres, comme des ballons prêts à partir, sur quelque étage plat de la montagne. Et tous ces globes et ballons, l'un après l'autre, ont été lâchés, découvrant derrière eux 1000 pointes qui s'aperçoivent, avec leurs robes éclatantes, agenouillées dans le matin. « Souffle, Jean ! Ou bien si tu n'as plus de souffle ?» Il souffle encore. Il n'y avait plus devant eux qu'un dernier escarpement qu'ils surmontent. Alors, au-dessus des montagnes, le ciel s'est doré tout à coup, devenu pareil avec ses rayons à un grand éventail qui s'ouvre. Isabelle a dit à Maitreyé, « Préparez-vous !» Oh, ça n'y est pas encore tout à fait. Alors elle a dit, « J'ai trop chaud !» C'est que l'air était de plus en plus tiède. C'était aussi le mouvement qu'on s'est donné. « Tu vois, » disait Lucien Revaz à son frère, « si tu as bien fait de venir. » Tandis qu'elle, elle ôte son châle, et on a vu le collier rouge dans le bas de son cou nu. « Oh !» disait Jeanne Emery, « tu vois bien ton caraco, il est trop court. »« Tant pis !» Et puis à Jean, « Et toi, trouves-tu ?» Et rit, et a fait bouger sous l'étoffe mince ses belles épaules. « Il vient ?»« Pas tout à fait encore. » « Dommage, a-t-elle dit, dommage qu'on ne puisse pas descendre ensuite à notre Mayen. Il est juste là-dessous. »« Je sais bien, disait Maitreyé, mais il y a trop de neige, et elle va se mettre à fondre. »« Dommage, on pourrait y danser. Jean, est-ce que tu as ta musique à bouche? Eh bien, garde-la dans ta poche, et on ira y faire les foins ensemble. Ce sera bientôt, disait-elle. Le temps va vite. Qu'en dis-tu, Jean ?» Puis, « Maitreyé, vous êtes prêts ?» Elle était en avant de nous, elle nous tournait le dos. On voyait ses tresses pendre sur sa nuque comme une grappe de raisin noir. Et le duvet qui était sur ses joues s'est illuminé tout à coup, en même temps que la ligne de son cou et le contour de ses épaules ont été marqués par un trait de feu. Maitreyé lève son fusil en l'air. Un, deux, trois, quatre. Voilà qu'il comptait les coups au village. Il disait, où est-ce qu'on tire? Ils ont compté jusqu'à 13 coups. Et ni Brigitte, ni une autre vieille qui veillait en zévui, n'avaient encore bougé. Mais alors, on a entendu une mouche qui s'était réveillée se mettre à bourdonner quelque part dans la pièce. Hé, a dit la vieille. « Dites donc, hein, il semble bien qu'il se soit trompé. » Brigitte n'a rien répondu, mais elle s'était levée. Elle avait été prendre un linge, elle l'a étendu sur la figure du mort.